Quand j'étais petite fille, maman m'enfermait à double tour dans le grenier quand j'étais vilaine, ce qui arrivait assez souvent. Et dans mon coin, je m'imaginais que j'étais une princesse emprisonnée dans une tour par une méchante reine. Et tout à coup, un chevalier arrivait sur son cheval blanc avec ses couleurs flottant au vent. Il tirait son sabre clair et prenait la tour d'assaut. Je lui faisais des signes. Il grimpe les escaliers pour monter à la tour et il me délivre.
Thibaut de Saint-Maurice, dans votre chronique cette semaine, vous établissez un parallèle entre les destins de Cendrillon et de l'héroïne de Pretty Woman, interprétée en 1990 par Julia Roberts dans un film de Gary Marshall.
Oui, Ali, alors je vais essayer de vous montrer, hein, comme j'aime le défi, voilà pourquoi et comment est-ce que cette Cendrillon et puis sa petite sœur moderne, contemporaine, Pretty Woman, peuvent changer notre vie. Alors c'est vrai que je pars pas vraiment gagnant, hein, parce qu'on a plutôt l'habitude de penser que Cendrillon n'est qu'une pauvre fille, hein, soumise, qui ne s'en sort que grâce au prince, et puis que Pretty Woman, hein, malgré le succès public, c'est au fond un film machiste. Bref, on a plutôt tendance à apprendre aux jeunes filles désormais à se passer du prince charmant. Et tout se passe comme si le désir d'amour avec un grand A se trouvait ringardisé au profit du désir tout court avec un petit D et puis au pluriel si possible. Alors si vous me laissez encore deux petites minutes, je vais tout de même essayer de vous montrer que Cendrillon et Pretty Woman, alors elle s'appelle Vivian Ward, hein, mais on va continuer à l'appeler Pretty Woman parce que c'est plus simple. Eh bien, ce sont des jeunes femmes fortes et libres.
Je veux juste savoir pour qui ça marche. Donne-moi un exemple d'une fille qu'on connaît pour qui ça a marché.
Tu veux un exemple? Ouais, tu veux un exemple? Tu veux que je te file le nom d'une fille? Comme
oui,
ça, tu veux un nom.
Oh,
galère. Trouver un nom, elle croit que c'est simple. Cette salope de Cendrillon.
Alors, premier argument, hein, Cendrillon, tout comme Pretty Woman, ce sont en fait deux jeunes femmes fortes, suffisamment fortes pour supporter des conditions de vie difficiles, et pourtant ne pas y perdre, hein, ni leur âme, ni leur désir de changement. Cendrillon est quasi réduite en esclavage, tout le monde connaît l'histoire. Pretty Woman, elle, a besoin d'argent et se retrouve, sur un trottoir. Ces deux jeunes femmes auraient pu en rester là, se résigner, accepter la condition de leur vie comme un destin, mais ces situations ne sont que des conditions de départ qui n'ont pas tué la liberté en elles. Et en ce sens, elles sont des héroïnes existentialistes à la Sartre. Sartre refuse toutes les idées de destin, d'essence, de conditions qui prédétermineraient l'homme à être ce qu'il sera, au nom précisément d'une liberté qui s'enracine dans la simple conscience que l'on peut avoir de soi et du monde. Voilà, Cendrillon et Pretty Woman, même avec leur vie difficile, elles conservent cette conscience d'elles-mêmes et à la première occasion, ça sera le bal pour Cendrillon ou la rencontre avec l'homme riche, hein, pour Pretty Woman, eh bien elles s'en saisissent et elles font tout ce qu'il faut pour que cette occasion soit la bonne et les libère de leur situation. Quand je dis tout ce qu'il faut, c'est qu'elles ne sont pas complètement passives, hein. Elles savent au contraire jouer le jeu que l'on attend d'elles, elles savent toutes deux très bien quoi faire pour que le prince les remarque et puis ne puisse plus se passer d'elles et finalement les sauve.
Bonjour. Mon prince viendra un jour, on s'aimera.
Alors, deuxième argument, hein. Cendrillon et Pretty Woman assument le désir qu'elles suscitent. Et plus que ça, hein, elles acceptent même que le désir d'un prince devienne l'occasion de leur émancipation. Bref, elles nous montrent que nous avons besoin du désir d'autrui pour exister. Mais alors franchement, au fond, qui s'en plaindrait? N'est-ce pas ce que nous cherchons tous, hein? Pascal nous rappelait déjà que nous désirons tous aimer et surtout être aimés. Hegel a construit presque toute sa pensée sur le jeu de la reconnaissance. Et dans un autre registre, Barthes, hein, dans son analyse du passage du désir à l'amour, ne dit rien d'autre lorsqu'il dit « Je rencontre dans ma vie des millions de corps. De ces millions, je puis en désirer des centaines. Mais de ces centaines, je n'en aime qu'un. L'autre, dont je suis amoureux, me désigne la spécialité de mon désir. » Voilà, c'est peut-être ça au fond, hein, qui sauve le prince charmant, c'est qu'il est amoureux. Avant de s'emballer et de montrer que son désir est aliénant, machiste et je ne sais quoi encore, on peut dire que d'abord, parce qu'il est aimé, il me montre l'image juste et unique de mon désir. Les contes de fées ne sont pas une sous-catégorie de l'opium dont le peuple aurait besoin pour supporter une condition misérable. Comme le montre le philosophe américain Bruno Bettelheim dans sa célèbre psychanalyse des contes de fées, si les contes aident les enfants à grandir et s'ils continuent de s'adresser aux adultes, c'est qu'ils racontent toujours la possibilité de la victoire. Les contes de fées, ils ont donc bien une fonction de consolation, mais qui apprend à se dépasser et non pas à se résigner, tout comme Cendrillon et Pretty Woman peuvent nous l'apprendre et donc changer notre vie.